阿雷红给了吃过的手，
Bonsoir, la RDC a transféré hier dimanche au tribunal pénal international pour le Rwanda basé à Arusha en Tanzanie, Grégoire Ndaimana, un des présumés génocidaires rwandais recherchés par la justice internationale. Comment analyser ce geste du gouvernement congolais et quel est son impact dans la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs? Nos invités sont Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias du gouvernement central. Il est en ligne, on l'aura dans quelques instants. Jacques Joly, professeur de droit et sénateur MLC. Il est vice-président de la Commission Défense, Sécurité, Surveillance et Frontières au Sénat. Il est aussi en ligne. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Maître Mirna Adjani, chef de mission du Centre international pour la justice transitionnelle, bureau de Kinshasa, elle est avec nous dans ce studio. Bonsoir, maître.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Avant d'aborder le sujet proprement dit de cette émission, sachez que le 21 septembre, c'est la Journée internationale de la paix. Cette journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1981 est un appel mondial pour un cessez-le-feu et pour la non-violence. Cette année, le secrétaire général fait appel aux gouvernements et aux citoyens du monde pour se concentrer sur les désarmements et la non-prolifération nucléaire. Pour la RDC, le thème retenu est les méfaits de la guerre à l'Est et les mécanismes de rétablissement de la paix durable en RDC. Et au moment où l'on célèbre cette journée dans la province orientale, on a noté une nouvelle attaque des LRA dans le territoire de Wacha. Au Nord Kivu, dans le territoire de Walikale, des mouvements de population qui sont signalés suite à des exactions des FDLR. Et par contre, à Uvira, les FRDC ont détruit trois grandes bases militaires de combattants rwandais FDLR dans le secteur de Lulenge, en territoire de Fizi, au Sud Kivu. Sénateur, professeur Jacques Joly, à ce jour, quel bilan faites-vous de la paix en RDC?
Je crois que la question du bilan, il fallait la poser au ministre, parce que c'est le gouvernement qui a déclenché, n'est-ce pas, l'opération, je ne sais pas comment ça s'appelle, tellement ça change de nom, vous me dites.
Kimia 2?
Voilà, je crois, c'est ça, qui vise, n'est-ce pas, à réduire la présence ou détruire, là encore, sur une frontière, parce que toutes ces opérations où on attaque le FDLR ne consistent pas à les renvoyer au Rwanda, mais plutôt à les pousser dans le fond du territoire congolais. Donc, au-delà de la volonté, peut-être des déclarations, des occupations des villages, des destructions du commandement, j'ai plus l'impression que nous sommes dans une approche d'évitement de la part de l'air qui, c'est ça, c'est du lit. Et à mon avis, c'est difficile, honnêtement, de faire un bilan militaire concret, sauf que on voit des désastres en termes de mouvements de population, en termes de représailles et communiqués du FRDC annonçant le paix des villages.
Mais, monsieur le sénateur, professeur, c'est vrai qu'on ne vous demande pas d'évaluer le bilan militaire, mais de façon générale, à ce jour, vous êtes quand même sénateur, représentant du peuple. Et quel est le bilan que vous faites au sujet de la paix à ce jour?
Honnêtement, je voudrais bien vous donner un bilan. On nous parle de plus ou moins de milliers de FDLR et leur suite qui seraient rentrés au Rwanda. On parle de la prise d'un certain nombre de bases et de destructions, et de, notamment du de transfert de ces groupes du FDLR qui seraient transférés, n'est-ce pas, au TPIR. Mais en termes humanitaires, le bilan est quand même assez catastrophique en termes, n'est-ce pas, de déplacement de la population, en termes de destruction en représailles, n'est-ce pas, de FDLR. Donc, la situation de guerre permanente à l'Est me préoccupe au-delà des communautés, des prises de villages. Mais il faut se féliciter de la volonté du gouvernement de se départir, n'est-ce pas, de cette alliance nocive avec les Westerners.
Maître Mirna Adjani, vous êtes chef de mission du Centre international pour la justice transitionnelle, bureau de Kinshasa. Quel est votre bilan de la paix à ce jour en RDC?
En RDC, alors ce que, comme vous venez de dire, la présence des LRA ou des éléments du FTNR dans la région indique que la situation reste régionale, qu'il faut des solutions. Maintenant, nous sommes en train de voir en Congo des approches des solutions militaires. Donc, pour vraiment assurer une paix durable, il faut aussi promouvoir les solutions politiques. Et comme activiste des droits de l'homme, qui travaille dans le domaine de la justice transitionnelle, je pense que pour assurer une paix durable, il faut assurer la justice pour les victimes des violations des droits de l'homme et des violations massives des droits de l'homme. Alors une partie, ce que peut-être nous commençons juste à voir, c'est de faire une réflexion et des actes plus profonds pour assurer la justice pour tous ces auteurs des crimes graves qui sont toujours en train d'être commis dans le territoire de la RDC.
Et quand vous parlez d'une solution politique, concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, négocier avec les FDLR, les LRA, je sais pas.
Bon, nous voyons, et avec les éléments du LRA et FDLR, il y a des situations dans leur propre pays, ça veut dire en Ouganda et au Rwanda, qu'il y a aussi dans les pays voisins, des processus de justice transitionnelle qui n'est pas encore été achevé. Ça veut dire qu'il faut promouvoir les réconciliations au sein des pays voisins. Et justement, c'est à travers des négociations politiques entre la RDC et leurs pays voisins qu'il faut trouver les situations ou les solutions politiques pour comment est-ce qu'on pourrait arriver à désarmer tous ces groupes armés et de les faire rapatrier, de rentrer chez eux, mais là où ils sont assurés qu'il y a la justice, il y a la paix, il y a la possibilité de vivre chez eux aussi d'une manière paisible.
Et en parlant de la justice pour les victimes, n'avez-vous pas encore décelé certains signes d'avancement dans cette justice pour les victimes?
Ça dépend de quel pays.
De la RDC, ça.
Bon, dans la RDC, nous voyons que quand même la justice militaire est petit à petit en train de voir, depuis 2002, il y a la compétence en ce qui concerne les crimes internationaux. Mais nous voyons que des exactions, des abus continuent à être commis par des éléments des FARDC et d'autres groupes rebelles. Et que justement, il faut vraiment promouvoir une meilleure justice avec des procès équitables au sein de la justice nationale.
Monsieur le ministre Mende, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ministre de la communication et des médias du gouvernement central. Avant d'aborder le sujet de ce soir, un clin d'œil à l'actualité. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. À ce jour, quel bilan vous faites de la paix en RDC? Au début de cette émission, on a parlé d'une nouvelle attaque des LRA, des déplacements, des mouvements de population signalés dans le territoire de Walikale, mais aussi des FARDC qui ont quand même des trois grandes bases des FDLR. À ce jour, quel bilan vous dressez de la paix?
Le bilan pour nous est globalement positif. Nous enregistrons bien sûr la résistance de quelques groupes résiduels, mais ça n'a plus la même ampleur que ce qui était observé il y a encore quelques semaines dans ces régions perturbées. On constate bien sûr une agitation criminelle de la part de ces éléments qui ont quitté les grands centres de concentration où ils se trouvaient, leurs quartiers généraux. Maintenant, c'est un peu le même phénomène qu'on avait observé dans la province orientale avec les LRA, qui tendent effectivement vers leur disparition, mais ils ont encore une capacité de nuisance assez forte et l'armée les talonne. Donc c'est un danger qui a existé à un niveau très élevé, nous l'avons réduit, mais il n'a pas encore disparu complètement.
Et le professeur Jacques Joly, peut-être que vous ne l'avez pas suivi tout au début de cette émission, réagissant à cette question, il dit par exemple que le bilan humanitaire est catastrophique.
Non, je pense que le sénateur Joly peut faire preuve quand même pour une fois d'un peu d'optimisme. Je pense que comparé à la situation que nous avons vécue il y a un an seulement dans cette région, les populations elles-mêmes réagissent, elles nous écrivent. Le sénateur est membre du Parlement, je pense que les collègues à lui qui viennent de ces régions peuvent en témoigner. Il y a des problèmes, mais ils ne sont plus de même ampleur, et donc avec cette évolution, on ne peut pas dire que les choses ont empiré, que du contraire.
Et Maître Mirma Djani, chef de mission du Centre international pour la justice transitionnelle, bureau de Kinshasa, que nous avons dans ce studio, a posé, elle, le problème de la justice pour les victimes.
C'est exact. C'est une préoccupation que nous partageons. Nous avons déployé la cour militaire opérationnelle. Elle n'est pas, bien sûr, une panacée avec les moyens réduits qui sont les leurs, parce qu'ils ne peuvent avoir que les moyens que l'État congolais peut mettre à leur disposition. Mais avec le peu qui est mis à leur disposition, ils font ce qu'ils peuvent. Nous savons qu'on peut faire mieux avec plus d'hommes, on peut faire mieux avec plus de logistique pour eux. Et donc, nous ne pouvons pas les accuser de mauvaise foi. Nous disons simplement qu'il faut que les bonnes volontés se multiplient pour accroître les moyens à la disposition de cette justice militaire qui est celle qui est la plus appropriée s'agissant de contrer des faits qui se déroulent en zone opérationnelle, des faits commis aussi bien par les rebelles que par nos propres troupes. Hein. Nous n'avons pas envoyé une légion sainte là-bas. Il y a des gaillards qui sont très bien et puis il y a d'autres qui sont des criminels. C'est pourquoi nous avons déployé une justice militaire à laquelle il faut donner quelques moyens.
Merci, Monsieur le Ministre. C'est avec vous que nous allons aborder notre sujet du jour maintenant. Grégoire Ndaimana, un des présumés génocidaires rwandais recherchés par le Tribunal pénal international d'Arusha, a été remis hier dimanche à ses juges naturels du TPIR. Sa femme et ses quatre enfants ont quant à eux été remis à la MONUC dans le cadre du programme DDRRR. La cérémonie a eu lieu à l'aéroport de Ndjili, d'où Ndaimana est parti pour Arusha en Tanzanie, sous l'escorte du greffier adjoint représentant du procureur du TPIR, M. Bessnier. Les détails sur ce transfert avec Kevin Côté.
Grégoire Ndaimana, âgé de 57 ans, a été arrêté depuis le 11 août 2009 à Kasuga, dans la province du Nord Kivu, au cours de la traque des FDLR organisée par les FARDC dans le cadre de l'opération Kimia 2. Son transfert intervient un mois après son arrestation et pour le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende, il fallait d'abord l'entendre sur les activités des FDLR menées sur les territoires congolais et qui avaient des implications sur la sécurité de la RDC avant d'être remis au TPIR. Lambert Mende souligne par ailleurs que ce transfert est un signe de l'engagement du gouvernement congolais à coopérer avec la justice pénale internationale dans le dossier des génocides et crimes contre l'humanité commis au Rwanda et d'ajouter que ce geste démontre à suffisance que la RDC est résolument engagée sur la voie de la paix à l'intérieur du pays et avec ses voisins, notamment le Rwanda. Toujours selon Lambert Mende, la RDC attend un retour d'ascenseur ou un comportement de réciprocité de la part du Rwanda concernant particulièrement l'extradition de Laurent Kunda, arrêté il y a plusieurs mois au Rwanda, mais aussi de tous les pays qui hébergent encore des prisonniers génocidaire. Pour rappel, Grégoire Ndaimana était lors du génocide rwandais en 1994 au bourgmestre de la commune de Kivumu. Selon l'acte d'accusation, il aurait supervisé les massacres de près de 2000 Tutsis qui s'étaient réfugiés dans l'église catholique de Nyange au Rwanda. Il a été inculpé le 2 août 2001 pour génocide par le procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit à ce sujet. Nous prenons juste de leur réaction pour l'instant. Qu'est-ce qui touche Julien de Goma au Nord Kivu, c'est un bon exemple et un bon départ dans la recherche de la paix, mais dans le cas où il n'y aurait pas de réciprocité, cela n'aura aucun impact dans la consolidation de la paix dans les Grands Lacs. Isongu Patrice de Mbandaka à l'Équateur, pourquoi la RDC manifeste la volonté de transférer Grégoire Ndaimana et pourquoi pas remettre Bosco Ntaganda et Laurent Kunda à la CPI? Monsieur le ministre Lambert Mende, quel est l'impact de ce transfert? Ce transfert a-t-il concrètement sur la paix à l'intérieur du pays?
Mais je pense que déjà le fait de réduire au silence celui qui était le juge suprême des FDLR, celui qui condamnait même nos concitoyens qui tombaient entre les mains des FDLR à mort ou pas, il avait le droit de vie ou de mort sur tous les gens qui tombaient entre les mains de ces criminels, ça pour nous amène un mieux dans la sécurisation du Nord Kivu. Il était aux côtés des FDLR, armes à la main, il commandait au plus haut niveau des unités des FDLR. Ensuite, je pense que ça fait tomber aussi la pression par rapport aux relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est quelqu'un qui a commis des actes criminels au Rwanda, des actes de génocide, et donc ça démontre la possibilité comme pays que nous avons, nous et le Rwanda, de pouvoir participer nous-mêmes à la pacification de notre espace. Donc je pense qu'en cela, il y a un impact direct de cette arrestation et de ce transfert sur la pacification.
Professeur Jacques Jondi, c'est la deuxième fois que la RDC extrade un présumé génocidaire. Tarsis Rinzayo, ancien préfet de Kigali, ville et colonel des forces armées rwandaises, était le premier extradé, et c'était exactement le 29 septembre 2002. Ne pensez-vous pas que c'est déjà un signe positif ou un signe d'avancement au sujet par rapport à la justice internationale? Comment analysez-vous ce geste du gouvernement?
Non, je crois que, contrairement à ce que M. le ministre a dit, nous sommes capables de faire preuve d'optimisme. Nous avons toujours invité le gouvernement congolais à clarifier ses relations avec les STLR. Je sais qu'à un certain moment, ils ont été alliés dans le cadre de guerres anciennes, mais il fallait se départir, n'est-ce pas, de ces groupes qui, développaient une idéologie qui est une présence qui, n'est-ce pas, créer des problèmes sur l'ensemble de la sous-région. Mais, et c'est très bien qu'on puisse faire ces transferts vers la Tanzanie, mais il faut continuer, il faut avoir pas simplement une approche militaire, comme a dit notre ami de la justice transitionnelle, il faut que le Congo puisse avoir une vision globale, c'est-à-dire intégrer la dimension politique, diplomatique, pour que nous ne soyons pas à la remorque d'une approche, d'une analyse rwandaise, n'est-ce pas, de la situation, et que nous, notre diplomatie, ne soyons pas capables d'imposer aux Rwandais, n'est-ce pas, la nécessité de trouver une solution politique aussi dans de cette question. Parce que la solution militaire ne va pas résoudre toute la question, toute la problématique, toute la complexité d'Estelaire, et au-delà de l'approche humaine qui fait cette pression, qui permet, n'est-ce pas, d'arrêter deux ou trois tête de cet mouvement. Il faut aller au-delà. J'ai suivi le ministre Mati demander Muruma Chaka. J'espère que là aussi on va y avoir la clarification et la fin de l'ambiguïté pour que finalement nous ne résolvions notre problème, que les Rwandais résolvent aussi leurs problèmes, que les Ougandais récupèrent les rats. Parce que si nous avons des approches asymétriques, nous ne devons pas résoudre. Je vous donne l'exemple de Burundi. Le Burundi, on avait le problème avec les FNL. Lorsque le Burundi a trouvé la solution avec les FNL, un accord politique, automatiquement, l'affaire du FNL, la présence des FNL a diminué fortement sans qu'on puisse développer de moyens importants militaires qui causent plus de douleurs, plus de souffrances au peuple congolais que le Rwandais qui, n'est-ce pas, peut se classer en ordre utile en termes de climat d'affaires alors que l'équipe reste en affaire pour le Congolais.
Professeur Joly, si je vous ai bien compris, vous voulez dire que ce transfèrement, c'est le Rwanda en fait qui l'a imposé au gouvernement congolais?
Je ne l'ai pas imposé, mais le Congo se met dans la lecture rwandaise qui veut, n'est-ce pas, nous mettre sur le dos totalement le problème des STLR. Je sais que notre territoire sert, n'est-ce pas, à celui de François, à ses STLR, mais il faut une approche globale, politique, parce que ce n'est pas en faisant, à s'attaquant aux STLR qui fuient dans l'intérieur du Congo, qui sur le plan militaire refuse l'affrontement direct avec les FARDC, sauf des opérations de représailles, qu'on va résoudre le problème. Il faut une solution politique, et là, la diplomatie congolaise n'a pas beaucoup d'efficacité sur le plan international pour demander aux Rwandais d'ouvrir aussi un espace de manière à ce que les FDLR, qui ne sont pas tous génocidaires, puissent rentrer politiquement et se mettre à la construction du Rwanda qui prépare d'ailleurs des élections très bientôt.
Maître Mirna Adjami, en tant que membre d'une ONG internationale spécialisée dans la justice, comment avez-vous accueilli ce transfert de Grégoire Ndaimana au TPIR?
Oui, alors selon notre analyse, nous ne pensons pas que c'était un transfert imposé, mais que ça rentre dans le cadre du rapprochement politique entre le Rwanda et la RDC. Et nous saluons ce transfert et cette démarche. Tout de même, j'ai trois points en ce qui concerne les obligations légales et comment ça rentre dans l'analyse de cette situation. Premièrement, vous venez de dire que le premier transfert s'était venu en 2002. Et nous avons su que depuis l'époque de 2000-2001, il y a une treizaine ou une douzaine de présumés recherchés par le TPI hier qui ont été censés être dans le sol du territoire congolais. Et entre 2002 et aujourd'hui, il n'y avait pas d'autres démarches qui ont été faites. Alors nous voyons que c'est sûr que pour vraiment arriver à l'arrestation, il faut quand même une volonté politique.
Et à ce niveau-là, À qui était la faute?
Bon, c'était la période de la transition, peut-être pour d'autres raisons politiques, le gouvernement avant les élections et même depuis, avec les dynamiques entre des groupes rebelles pour, contre CNDP, FDLR, il n'y avait pas la volonté vraiment de la part du gouvernement congolais de procéder à ces arrestations des présumés recherchés génocidaires par le TPIR qui étaient ici sur le sol congolais.
Là, c'était le premier élément. Le deuxième, vous avez déjà parlé de trois éléments.
Oui, le deuxième élément, c'est il reste au moins très, très peu de détails en ce qui concerne les circonstances de l'arrestation. J'ai lu quelques communiqués de la part des FDLR qui disent que non, ce n'était pas que Grégoire Ndaïmana n'était pas quelqu'un d'important au sein des FDLR. Alors c'est seulement pour avoir la transparence, savoir comment il a été arrêté. Et le troisième point.
Peut-être avant d'aborder le troisième point, qu'est-ce que ça peut changer de connaître, d'avoir les détails sur les circonstances de son arrestation?
Bon, je pense que cette année, dans la politique de la RDC, depuis janvier, le public, même le Parlement, a été surpris par quelques arrangements qui ont été pris par le gouvernement avec les pays voisins. La plus de transparence, le plus que nous savons, qu'est-ce qui est derrière les motivations de ces actes. De ces démarches de la part du gouvernement.
Donc c'est une forme de crainte qu'il y ait par exemple des négociations entre le gouvernement et Grégoire Ndaïmana.
Bon, je mets ça sur la table que sans plus de détails, on ne sait pas qui est derrière ça.
Je vous en prie, le troisième élément.
Non, le troisième élément, c'était seulement que, bien sûr, alors j'insiste que c'est l'obligation de la RDC, selon le statut du TPIR, de coopérer avec ce tribunal. Alors depuis toujours, c'était l'obligation du gouvernement congolais de tout faire pour arrêter ces présumés et de les transférer au TPIR. Et un autre règlement, c'est que normalement, pour un procès équitable, il faut faire ce transfèrement 72 heures après l'arrestation. Et comme nous venons d'écouter...
Ça a pris plus de 3 semaines.
C'est ça. Alors, pour les principes des droits de l'homme du procès équitable, on était un peu préoccupés par ce délai encore avec peu d'informations. On ne savait pas qu'est-ce qui allait, pourquoi on savait qu'il était arrêté, mais pourquoi il n'avait pas été livré dans le délai du droit.
Monsieur le ministre Lambert Mende.
Oui.
Vous venez de suivre Maître Mirna Adjani, Grégoire Ndaïmana devrait être extradé dans les 72 heures qui suivaient, et puis il n'y a pas trop de détails sur les circonstances de son arrestation, et puis pour le sénateur Joly, c'était un peu pratiquer la politique du Rwanda aussi.
Oui, ben je pense que s'agissant des motivations pour lesquelles il a été arrêté, la dernière interlocutrice est plus près de la vérité. Et dans la mesure où nous avons simplement une obligation internationale. Il y a un mandat qui a été émis par le TPIR. Nous avons pris l'engagement de respecter ce mandat. C'est ainsi que, dès lors que nous rencontrons une personne qui est concernée par cette recherche de criminel, nous devons la mettre à la disposition du TPIR. Et je voudrais quand même dire que s'agissant de la douzaine de personnes criminels ou génocidaires censés être en territoire congolais, je voudrais qu'on ne prenne pas comme ça de liberté avec des faits. Hein, une ONG n'est pas mieux outillée que nous, gouvernement, pour savoir qui est en territoire congolais et qui n'y est pas. Je pense qu'il faut attendre que nous puissions mettre la main sur un individu, comme on l'a fait avec Ndaïmana, l'identifier pour vous permettre de dire que parmi la liste de ces génocidaires recherchés, M. Ndaïmana se trouvait en République démocratique du Congo. Je sais qu'il y a des mouvements irrédentistes, le CNDP et d'autres, qui se sont créés au Kivu sur base des arguments que madame est en train d'invoquer. Et c'est assez regrettable que les ONG s'alignent sur ces arguments-là qui justifiaient que certains groupes armés prennent des armes pour aider soi-disant le Rwanda à faire son ménage et qui prétendait que tous les génocidaires recherchés au Rwanda étaient au Congo. Est-ce que dans cette Afrique centrale ici, aux frontières poreuses, madame peut avec certitude nous dire qui de ces personnes recherchées est en territoire congolais? Et même s'ils étaient en territoire congolais, comment peut-on rendre le gouvernement congolais responsable de la présence dans des zones que le gouvernement congolais n'a pas contrôlées jusqu'à au moins 2002, 2003, 2004 ne pas avoir livré des personnes qui se trouvaient dans ce territoire. Non,
Monsieur le ministre,
là, je pense qu'il faut vraiment la dépasser.
Monsieur le ministre Mende, Une question de précision, hein. Maître Mirna a dit que Grégoire Ndaïmana devrait être extradé dans les 72 heures. Pourquoi ce délai n'a pas été respecté?
Nous avons bien donné la raison. Nous sommes un État. Peut-être que pour Maître Mirna, nous ne sommes pas un État. Peut-être qu'elle croit que nous sommes une ONG comme l'ONG.
Ça elle ne l'a pas dit, madame la ministre.
Nous sommes un État, madame. Et nous avons nos priorités. Nous avons nos intérêts. Nous avons, bien sûr, accepté de coopérer avec le TPIR, mais ce monsieur a été pris, arme à la main, aux côtés de FDLR. Et nous devions absolument enquêter sur les combats qu'il mène avec le FDLR. Puisque si les crimes ont eu lieu au Rwanda en 94, dans le cadre du génocide, il y a eu des crimes aussi maintenant. Et il se déroule, c'est sur ça que nous sommes en train de débattre dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu. Il a été pris avec ces rebelles rwandais. Nous devions d'abord prendre de lui toutes les informations dont nous avions besoin pour notre défense. Parce que nous ne sommes pas simplement au service du TPIR. Nous ne sommes pas le dépotoir de la communauté internationale, rendre service à la communauté internationale
et oublier
nos propres intérêts. Donc, quand nous avons pris toutes les informations, nous trouvons et que ceci soit intervenu après 72 heures, croyez bien qu'on ne nous a plus fait le reproche et nous ne nous sentons coupables de rien du tout.
Professeur Jacques Joly.
Oui, c'est très bien. Le ministre Mende a pris l'habitude ces derniers temps de s'en prendre des ONG à tout le monde, au monde entier, au complot. Il est important que le gouvernement congolais développe d'abord une attitude non ambiguë. Comment peut-on expliquer qu'on puisse arrêter sur le champ de bataille un homme, sa femme et ses enfants? C'est quand même un sacrifice dont on se pose la question. Le droit à l'information, c'est un droit constitutionnellement garanti. Et il est important qu'on puisse savoir comment, dans une guerre aussi farouche, on pourrait arrêter quelqu'un, sa femme et ses enfants, est-ce que le maître est là? Tout cela, ça pose des problèmes. Donc, en ce qui nous concerne, c'est vrai que le gouvernement congolais sait, n'est-ce pas, exécuter face à ses engagements internationaux, mais il se pose quand même un certain nombre de questions, comme ça on a fait poser. Comment expliquer que depuis plus de 10 ans, on a signé les accords de Pretoria, les accords de Luanda, tous ces accords parlaient, n'est-ce pas, de démantèlement de FDLR, de rapatriement de ces hommes. Il y a eu, il faut l'avouer, c'est une aucune honte qu'à un certain moment, le gouvernement était un peu tatillon. Et il n'y a que dernièrement, après Mojawetu, qu'il y a une volonté ferme du gouvernement congolais de se débarrasser de FDLR. Donc, il n'y a pas de honte à cela, et que les personnes congolaises ou étrangères nous demandent de nous expliquer, mais nous devons, n'est-ce pas, dans la transparence, pouvoir le faire.
C'est quand même... Oui. Professeur Joly, cela n'a-t-il pas d'impact sur la souveraineté de la RDC en tant qu'État souverain?
Non, c'est vrai que les États sont souverains, mais la souveraineté ne se dégage pas à une souveraineté absolue. Nous sommes dans la coopération internationale et l'émergence des tribunaux pénaux internationaux tels que celui de Rwanda ou encore la CPI. Ce qu'on déplore très souvent dans l'attitude de notre gouvernement, c'est l'approche duale, c'est-à-dire une approche tantôt vous coopérez avec la Cour quand ça vous arrange, et quand ça vous arrange pas, vous refusez de réaliser Tangada. C'est cela, il faut avoir une approche de principe et non une approche opportuniste lorsque ça vous arrange. Lorsqu'on veut coopérer avec la justice internationale, il faut y aller et non évoquer à tout moment la souveraineté. La souveraineté doit être dans le cadre de l'interprétation du respect du droit international et du respect des citoyens. La responsabilité de la souveraineté,
c'est
aussi en termes de responsabilité de protéger et de promouvoir le droit des citoyens et de l'homme.
Maître Mirna Adjani, vous avez suivi le ministre Mende, hein, il n'a pas été très. N'y est pas allé du dos de la cuillère, comme on dit. Vous allez avoir l'occasion de réagir à ses propos, mais il y a Takuli Gustave de Kalini, cet auditeur, qui vous demande: avec cet acte, les autres FDLR présents en RDC auront peur de rentrer au Rwanda sous prétexte d'y être arrêtés et condamnés?
C'est une préoccupation réelle et justement comme je reviens à dire de répondre à cette question parce que j'ai dit dès le début, c'est-à-dire que d'autres démarches politiques doivent être faites au sein du Rwanda pour être sûr qu'il y a un processus de réconciliation nationale au Rwanda pour que les Tutsis et Hutus puissent vivre à côté pour une paix durable. Alors, c'est une préoccupation réelle, oui.
Alors, il y a aussi le faustin de Kamanga au Kasai-Occidental qui dit, mais qu'est-ce que ce transfert a à faire au quotidien des Congolais qui sont déjà affamés et sans paix? Quels sont les enjeux autour de ce transfert?
Bon, je pense que tout le monde dans l'émission aujourd'hui est d'accord plus ou moins que le transfert est comme démarche de rapprochement entre les deux pays, à la paix. Alors justement, je pense que c'est une bonne démarche. Et aussi, pour peut-être revenir à la discussion sur l'État souverain du Congo, justement, quand un pays comme le Congo respecte leurs obligations internationales, selon les conventions internationales, encore, c'est une bonne démarche qu'il faut peut-être promouvoir d'une manière plus globale pour être sûr, comme j'ai dit dès le début, que la justice soit faite pour toutes les victimes, y compris les Congolais.
Vous êtes satisfait quand même de la réponse du ministre sur le délai?
Non, parce que tout de même, ça relève. Je reviens au fait que quand même, l'obligation contre un pays, un État souverain, signe des conventions. On accepte toutes les obligations. Comme ça, je reviens peut-être aux remarques qui vient de faire l'honorable sénateur aussi, en ce qui concerne toutes les obligations. Alors, s'il y a des procédures qui rentrent dans le cadre des obligations, il faut les suivre. Bon, je reconnais qu'il y a des problèmes, des délais, ainsi de suite, mais j'insiste que quand même, les procédures font partie des obligations légales des États qui font partie des membres des nations.
La RDC a transféré hier dimanche au tribunal pénal international pour le Rwanda basé à Arusha en Tanzanie Grégoire Ndaimana, un des présumés génocidaires rwandais recherchés par la justice internationale. Comment analyser ce geste du gouvernement congolais et quel est son impact dans la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs? C'est le thème de l'émission de ce soir. Nos invités sont Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias du gouvernement central, Jacques Joly, professeur de droit et sénateur MLC, vice-président de la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat, Maître Myrna Adjani, chef de mission du Centre international pour la justice transitionnelle, bureau de Kinshasa. Vous voulez réagir dans cette émission? Voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Le Rwanda se dit satisfait du geste posé par la RDC en remettant Grégoire Ndaimana au tribunal pénal international pour le Rwanda. Pour l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Amandin Rugira, c'est un signe que les relations entre les deux pays sont au beau fixe. On écoute l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Amandin Rugira, au téléphone de Kevin Côté.
Aucun criminel comme Grégoire Ndaimana, qui a commis le crime de génocide, est arrêté et remis aux autorités compétentes pour le juger. Le Rwanda apprécie toujours ce geste. Cela témoigne l'état de relation entre nos deux pays, que je qualifie d'excellente. Transférer Grégoire Ndaimana à Arusha, ça nous convient parfaitement parce que c'est en fait répondre à ce qu'a demandé les Nations Unies par sa résolution, que tout État qui héberge un génocidaire doit le soumettre au tribunal international pour le Rwanda pour le juger.
Monsieur l'ambassadeur, qu'en est-il du transfert de Laurent Nkunda?
Le cas de Nkunda, c'est une autre chose. C'est encore un peu parlé entre les deux États. Donc, au moment venu, vous serez informé de l'issue du problème.
Monsieur le ministre Lambert Mende, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont posé cette question sur le transfert de Laurent Nkunda. Comment vous analysez cette réponse de l'ambassadeur rwandais en RDC?
Je pense qu'il y a peu de choses qu'on puisse ajouter à cette réponse de monsieur l'ambassadeur. Il a tout à fait raison. Nous ne pouvons pas, à ce stade-ci, présumer de la mauvaise foi du Rwanda dans ce dossier. Nous avons entamé des discussions qui n'ont pas encore été conclues. Une commission entre les deux ministres de la Justice a été instituée. Elle n'a pas encore déposé de conclusion. Nous, en ce qui concerne le gouvernement congolais, nous ne désespérons pas et nous n'avons aucun
aucune raison de croire en une mauvaise foi quelconque de notre partenaire rwandais. Nous attendons la réponse, c'est ce qu'on peut dire. Il y a vraiment peu de choses qu'on peut ajouter à ce qu'il a dit.
Mais apparemment, c'est comme d'après même certains auditeurs, c'est comme si la RDC, il va plus vite hein, que le Rwanda.
Je ne pense pas que les deux problèmes se posent au même niveau. Nous avions comme interlocuteur dans, ou interface dans ce dossier de Ndaimana, le tribunal pénal international pour le Rwanda, et nous avons le Rwanda comme interlocuteur dans le dossier qui concerne Laurent Kunda. C'est donc deux entités différentes qui ont chacune son rythme. Nous ne faisons pas du spectacle, ce sont des affaires sérieuses. Nous sommes en train de discuter. Je ne pense pas que les affaires entre États puissent s'accommoder justement de ces impatiences, de ces sauts d'humeur. Nous n'avons, nous le répétons, aucune raison de douter de la bonne foi du voisin.
Sénateur Jacques Joly, quelle lecture vous faites hein, de ce que vous venez d'entendre du message de l'ambassadeur rwandais au sujet du transfèrement de Grégoire Ndaïmana?
C'est ce que je vous ai dit, l'approche asymétrique. L'ambassadeur du Rwanda est très content du transfèrement, n'est-ce pas, de M. Grégoire au tribunal pénal international pour le Rwanda. Ça entre dans la politique rwandaise, n'est-ce pas, dans la lutte contre les génocidaires. Par contre, sans les difficultés de même ambassadeur et même du ministre, pour savoir si les attentes du peuple congolais dans la résolution de ces problèmes, dans sa soif également d'une justice, cette attente du peuple congolais et du gouvernement congolais pourra être satisfaite par le gouvernement rwandais. Et le ministre vous dit que, bon, ce n'est pas sur le même point, mais il faut qu'on puisse comprendre que la question de la sécurité dans la région des Grands Lacs se pose en termes à la fois global, bien sûr, et aussi national. Donc il s'agit d'une sécurité humaine. Et dans la sécurité humaine, on ne peut pas faire comme dans la sécurité des États d'il y a 15 ans, s'échanger des prisonniers dans des considérations et dans des contextes très opaques. Il faut une démarche globale, et je crois que c'est cette attente du peuple congolais de trouver cette solution au cas où Kunda, mais écoutez, les gouvernements font avec les moyens qu'ils ont. Je crois que nous avons beaucoup plus de difficultés que le Rwanda à imposer notre lecture, n'est-ce pas, de la situation dans la sous-région.
Maître Mirna Adjani, il y a deux auditeurs qui nous écrivent du Katanga. Le premier, c'est Guy Moussengouzi de Lubumbashi. Il dit, de par ce geste, la RDC doit-elle aussi s'attendre à l'extradition d'un Kunda ou bien à son transfert à la CPI? Il y a audit de Kamina, il dit, avant de parler du transfert d'un Kunda pour le punir, c'est mieux de commencer avec Bosco Ntaganda.
Quelques réponses. Alors d'abord, monsieur le ministre, il a raison. La question du transfert de Ndaimana au TPIR est différente que la question des négociations ou une extradition bilatérale. Ça, c'est au niveau juridique et légal. Les éléments sont assez compliqués pour ce qui concerne les extraditions au niveau bilatéral. Quand même, il y a des conventions depuis 1975 qui ont été signées.
Donc, en termes simples, vous voulez dire qu'il est difficile pour que deux États puissent faire l'opération d'échange, en fait?
Bon, c'est seulement, il faut suivre une procédure. Et encore là, je pense que nos partenaires congolais voudraient avoir plus de précision. Quelle était la demande formelle que le gouvernement congolais a déposée auprès du gouvernement Rwanda? Et quelles sont vraiment les démarches qu'ils font pour encourager ce dossier à être résolu? Mais je suis aussi d'accord avec l'auditeur, avec la question du Bosco Ntaganda. Encore, je reviens à la question des obligations de l'État congolais. Et étant État membre du statut de Rome et le système de la Cour pénale internationale, la CPI, il est clair qu'aujourd'hui, vu le fait qu'il y a un mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda de la part de la CPI, c'est l'obligation du gouvernement congolais de le livrer, de l'arrêter. permettait de vivre selon leurs obligations légales comme État membre de la CPI.
Monsieur le ministre Lambert Mendeya, Claver Kaassa de Goma au Nord Kivu, il dit « Ce geste est à la fois signe de faiblesse et de consolidation de la paix, de faiblesse, car notre pays livrera toujours des génocidaires, mais ne recevra jamais en retour les personnes recherchées par la RDC et hébergées dans d'autres pays par manque de confiance dans la justice congolaise. » Il y a Kabea Azoni de Kindo Maniema, il dit « Pourquoi le gouvernement n'exige pas du Rwanda la remise de Laurent Kunda aux mains des autorités congolaises ?»
Tout d'abord, je n'ai pas moi enregistré dans les raisons qui affleurent à la surface de discussion entre nos deux gouvernements une référence quelconque à une prétendue manque de confiance à la justice congolaise. Ça, sincèrement, c'est une information que votre auditeur pourra documenter, mais nous n'avons jamais entendu parler de ça. Nous parlons effectivement des conventions d'extradition qui existent et qui doivent être exécutées, mais dire qu'on manque de confiance à la justice congolaise, je ne sais pas si elle est meilleure ou moins bonne que celle d'autres pays africains. On a les mêmes problèmes, on a les mêmes institutions. Je dirais aussi que, en ce qui concerne le problème de Ntaganda, qu'on enfonce en fait une porte ouverte. Nous sommes là dans la même situation par rapport au TPIR. Ici, vis-à-vis de la Cour pénale internationale, nous avons la même position. Lorsque nous disions il y a quelques jours au TPIR que nous avions besoin d'abord d'avoir des informations, d'accomplir certains devoirs que notre loi nationale et nos intérêts nationaux nous dictent d'obtenir de Ndaimana avant de le livrer, il y a eu des attitudes d'impatience. On a parlé même d'en référer aux Nations Unies à New York. Aujourd'hui, nous avons fait ce que nous étions engagés après avoir obtenu les informations qui nous étaient indispensables. Je crois que l'approche est strictement la même en ce qui concerne Bosco Ntaganda. Quel est le problème? Le problème, c'est que nous voulons achever le désarmement et la réintégration des unités que Bosco Ntaganda, comme second de Laurent Kunda, commandait. Lui a accepté de coopérer, Laurent Kunda n'a pas accepté, et donc nous avons décidé, au nom de nos propres intérêts nationaux, qu'il allait d'abord nous aider à finaliser cette réintégration des éléments, après quoi nous ouvririons son dossier. Bon, évidemment, la situation en ce qui concerne Ndaimana est allée plus rapidement que celle de Ntaganda. Mais il reste que sur le principe, nous sommes restés constants, ce n'est pas du tout asymétrique, nous estimons que nos intérêts nationaux peuvent se juxtaposer, se marier harmonieusement avec les intérêts de la justice internationale. Voilà tout.
Professeur Jacques Joly, ce geste du gouvernement congolais consolide-t-il la paix dans la région des Grands Lacs?
Non, je crois que il y a Il n'y a pas de paix sans justice. Allô?
Vous êtes en ligne, professeur, oui. Nous vous suivons.
Il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de paix, n'est-ce pas, divisée. La paix est globale. On ne peut pas avoir la sécurité au Congo, la justice au Congo, s'il n'y a pas une convergence dans la sous-région vers le même objectif. Nous voulons l'intégration, mais nous devons avoir une intégration vécue ou perçue de la même façon. Ça, c'est de 1. Donc, si nous tenons l'option de lutter contre le FDLR et que le Rwanda est dans une approche mono-ethnique, eh bien, on aura toujours des problèmes. Et deuxièmement, dans le comportement du gouvernement congolais lui-même, il faut une cohérence. Si vous dites que vous coopérez avec la justice internationale, bien, il faut y aller. Quand vous félicitez de transférer Ndaimana, je vois, n'est-ce pas, au TPIR, mais transférer Ntaganda.
Merci, professeur.
Voilà, donc c'est ça, cette approche que j'appelle asymétrique.
Merci.
Que d'autres disent même ambiguë ou confuse, n'est-ce pas, dans des écrits opportunistes.
Merci, professeur. Il nous reste quelques secondes pour terminer cette émission. Maître Myrna Adjani, votre conclusion déjà.
Je suis tout à fait d'accord avec l'honorable. Comme j'ai dit dès le début, pour assurer une paix durable, il faut assurer la justice pour les victimes des violations massives des droits de l'homme. Il faut voir les victimes du Congo davantage.
Monsieur le ministre Mende, je vais juste vous demander un mot en guise de conclusion. Juste un mot.
Ce que je dis, c'est que notre gouvernement est là pour le peuple congolais et c'est pour les victimes du Congo que nous avons déployé notre armée, que nous avons déployé notre justice pour les protéger, et que nous voulons pacifier en retrouvant une harmonie avec les États voisins.
Merci, Monsieur le ministre Lambert Mende, merci professeur Jacques Joly, maître Myrna Adjani, merci à vous. C'est la fin de cette émission, mise en onde par Eddy Martis, réalisation de Guy Maté, assisté de Kélin Kouté et Samuel Kachak. La coordination est signée Martin Sebouzangwe, en leur nom Alain Hirung. Je vous dis merci de nous avoir suivis.